Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Il est 18h, le journal c'est dans une présentation de Nafis Adamou Sirfo. Les titres de ce journal, des bandits armés non identifiés ont attaqué dans la nuit du samedi 4 novembre le centre intégré de Djambala, région de Tillabéri. Bilan 2 motos et 5 téléphones portables à emporter. Ici à Niamey, un incendie a ravagé hier nuit 16 boutiques au marché Bonkaney. Les victimes de cet incendie se prononcent dans cette édition. En partie magazine, nous parlerons du forum sur le changement climatique et le développement durable organisé par les jeunes volontaires pour l'environnement. C'est dans le cadre des préparatifs de la conférence sur les changements climatiques édition 2017 qui s'est ouverte ce jour à Bonn en Allemagne. Bonsoir à tous. Samedi dernier, le centre de santé intégré de Djambala, à une vingtaine de kilomètres de Tillabéri, en direction du Mali, a été la cible d'un groupe de 5 bandits armés non identifiés. L'attaque perpétrée peu avant 23h s'est soldée par le vol de 2 motos et de 6 téléphones portables. Dans leur fuite, les bandits ont abandonné l'une des 2 motos tombées en panne de carburant. Il n'y a eu ni blessé ni mort. Karim Mugula, chef du centre intégré, raconte les faits. Il est joint au téléphone par Adama Dawaki.
Ils ont en premier lieu croisé ce stagiaire-là. Ils l'ont pris. Entre temps, moi, je suis allé déjà mettre la moto dans la chambre. J'ai fermé et j'ai sorti la clé. Même je l'ai mis dans une autre chambre. Ça veut dire mon bureau, quoi. On s'était croisé avec eux. Ils m'ont dit, tu t'arrêtes là où tu es. Et alors, ils sont venus à 4 m'encercler. Les 3 ont des armes et l'autre a une chicotte. Ils m'ont dit, la moto. J'ai dit, quelle moto ils ont eu la DT? J'ai dit non, on n'a pas de DT. Ils ont dit non, tout à l'heure là, ils voyaient une DT là. J'ai dit non, il n'y a pas de DT. Ils ont dit non, et la DT de tout ça. J'ai dit c'est pour quelqu'un, il a pris et il est parti. Après, ils m'ont dit bon, de donner les clés de l'ambulance. J'ai dit non, je ne détiens pas les clés de l'ambulance. Ils ont dit c'est bien avec, j'ai dit, avec l'ambulancier, bien naturellement. Ils m'ont dit bon, de les accompagner pour aller chercher l'ambulancier là. Entre temps, il y a deux hommes qui sont rentrés chez moi. Il y a un qui a braqué l'arme sur madame pour lui dire de ne pas crier. Et il y a l'autre qui est rentré dans la maison pour prendre 2 portables et 2 sacs de colliers. Ils sont habillés en turbanisé, des tenues noires en turbanisé.
Un incendie s'est déclaré hier aux environs de 21h au marché Bonkaney de Niamey. L'origine de ce sinistre n'est pas encore déterminée selon les délégués des commerçants du dit marché. Le feu a ravagé 16 boutiques, causant ainsi d'énormes dégâts matériels. Notre reporter Asmane China s'est entretenu avec quelques victimes de cet incendie que je vous propose d'écouter.
Ma boutique a complètement brûlé. Je n'ai rien à lever. Je vends des matériels de plomberie et de menuiserie. J'ai perdu au moins 5 millions dans cet incendie. J'étais à la maison lorsqu'on m'a appelé pour m'informer qu'un incendie s'est déclaré au niveau de nos boutiques. À mon arrivée, je n'ai rien trouvé. Nous attendons ce que les autorités vont faire. Nous voulons qu'elles nous autorisent à construire nos boutiques en matériaux définitifs pour protéger nos marchandises. Moi, j'étais en train de regarder la télé avec un petit frère lorsque nous avons constaté une masse de courant électrique. J'ai sauté le compteur et j'ai compris que ce n'était pas dans ma boutique. Et subitement, l'incendie s'est déclaré et personne ne pouvait rentrer dans les boutiques. J'ai tout perdu sauf ma moto que les gens ont vite évacuée. J'estime ma perte à environ 30 millions. Car ma tôle est de 3 places et rien n'est sorti.
En bref, c'est ce matin que Mohamed Salissou Dilégé, membre du bureau politique du parti Modène Falumana, a été placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Maradi, nous a confirmé son avocat Maître Amadou Boubacar. Rappelons que celui-ci a été arrêté le 30 octobre dernier à Maradi, puis transféré à Niamey avant d'être renvoyé à Maradi. À Agadez s'est ouverte ce lundi une table de concertation régionale sur la scolarisation des filles. Organisée par la direction de la promotion de la scolarisation des filles, cette rencontre permettra aux chefs traditionnels, aux autorités, aux parents d'élèves et responsables de l'éducation de la région de trouver des solutions aux difficultés qui empêchent la scolarisation des filles. Sani Kani, directeur régional de l'éducation primaire d'Agadez.
Nous avons cité un certain nombre de départements où nous avons relevé des difficultés rencontrées en ce qui concerne les obstacles qui freinent la scolarisation de la jeune fille. On a pris un exemple, Thiro, Ingal et Ifirouane. Et les problèmes qui sont-ils? Les jeunes filles sont utilisées à travers des travaux domestiques. En plus donc de ces travaux domestiques, et ces jeunes filles les utilisent pour aller vendre des petits articles au niveau donc des rues. Elles sont par là, elles sont ceci. Au lieu de rester étudier les champs qu'on les a fait apprendre, on les utilise, comme je l'ai dit, sur d'autres fins. En plus de cela, c'est que ces jeunes filles rencontrent des mariages précoces. Les maris, déjà, ont fait un frein à leur scolarisation. Le problème suivant, pour aller donc à l'école, ou bien au niveau donc, de sa classe, il faut parcourir une longue distance.
C'était Sani Kani, directeur régional de l'éducation primaire d'Agadez, au micro de Moussa Maman. Le directeur général de la FAO a rencontré les ministres de la Santé des pays du G7, à savoir le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, hier 5 novembre à Milan, en Italie. Lors de cette rencontre, plusieurs questions ont été évoquées, n'est-ce pas, Ternan Foudey Ahmed?
Transformer les systèmes alimentaires afin d'assurer des régimes alimentaires sains et une bonne nutrition pour tous. Tels sont les propos tenus par Graziano da Silva, le directeur général de la FAO, devant les ministres des pays membres du G7. Graziano da Silva rapporte également, je cite, « Les cas de sous-alimentation chronique sont en hausse pour la première fois depuis 10 ans, en grande partie à raison des conflits et du changement climatique, avec plus de 2 milliards de personnes souffrant d'une ou plusieurs carences en micronutriments et près de 1,9 milliard d'adultes en surpoids, dont 600 millions sont obèses. » Fin de citation. Les ministres de la Santé de ces pays ont été également informés sur les efforts conjoints déployés par la FAO et par l'OMS pour lutter contre la transmission des maladies animales vers les humains, telles que la grippe aviaire et le virus Ebola, ou encore contre l'émergence de la résistance aux antimicrobiens, RAM.
Plus de 2000 migrants nigériens ont été rapatriés de l'Algérie en l'espace de 6 semaines, selon le chef du centre OIM Arlit. Pour les migrants étrangers, ils sont plus de 1000 à avoir été refoulés de l'Algérie. Selon toujours le responsable de l'OIM, l'acheminement des migrants nigériens se fait sous la base d'un accord signé entre les deux pays. Inoussama Lamoussa, que je vous propose d'écouter.
Notre rôle, c'est d'aider les gens qui veulent retourner chez eux et qui n'en ont pas les moyens. Nous soignons celui qui est malade. Nous rencontrons des gens qui sont tellement assoiffés. Par exemple, une personne dont 2 ou 3 qu'on voit. C'est une seule fois qu'on a eu un cas de décès. Une personne qui était dans un état critique au moment où on voulait la transférer, elle a perdu la vie. De ce côté, la distance n'est pas longue. Si toutefois ils n'ont pas rencontré des problèmes en cours de route, on peut les sauver. Dès que quelqu'un signale qu'il a laissé d'autres personnes derrière, les forces de l'ordre vont immédiatement à leur recherche.
Des propos recueillis par Ousmane Oumarou. L'actualité en région toujours, l'association HIMA et le réseau des femmes élues de la région de Maradi, avec l'appui du PNUD, ont formé lundi 30 octobre dernier les femmes élues et les structures des jeunes du département de Mayayi sur leur pleine implication dans la politique pour pouvoir apporter leurs pièces à l'édifice. Madame Boubacar Halimatou est la responsable chargée des opérations à l'association HIMA. On l'écoute.
L'objet de cette activité, c'est de renforcer les capacités des structures de base des conseils départementaux de la jeunesse et de la Fédération régionale des femmes élues locales de la région de Maradi. On constate beaucoup de défaillances dans leur implication dans la politique. Les femmes et les jeunes sont en marge de la politique, si on peut le dire, à cause des obstacles ou des blocages que ces deux couches-là rencontrent aujourd'hui au sein des instances de prise de décision. Donc, c'est des femmes peut-être qui n'ont pas assez de moyens pour participer à la politique, c'est des femmes qui ne sont pas concertées en cas de prise de décision, ou bien c'est les jeunes qui ne sont pas concernés dans les prises de décision.
Propos recueillis par Issoufou Cheibou. Parlons culture, le festival de la danse contemporaine, du conte et de l'humour Parole de Sable, organisé chaque année depuis 2006, a pris fin ce jour à Maradi. 37 artistes venus du Nigeria, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Niger ont produit des prestations allant dans le sens de la préservation de la paix. Le promoteur du festival Parole de Sable, Sani Bouda, au micro de Mohamed. Mohamed Maman.
Parole de sable, c'est un festival des arts de l'oralité. Quand je dis art de l'oralité, c'est tout art qu'on peut faire sur la scène à partir duquel on peut tirer un message, notamment le conte, le théâtre, la danse, la musique, le chant, même l'humour, c'est la parole. Ça fait partie des patrimoines immatériels dont l'UNESCO est en train d'encourager, à promouvoir. Voilà. Presque tous les artistes ont soif de parler de la paix, de la solidarité, du partage. Voilà les thèmes vraiment centraux. Maintenant, quand nous allons dans les écoles avec les jeunes publics, on parle généralement de l'éducation, du droit, de l'hygiène, de la santé, tout ça là, tout ce qui relève de la morale qu'on enseigne à l'école.
Studio Kalangu. Les programmes du Studio Kalangu
Agadez
sur la radio Sahara 97 FM
à Arli
sur la radio Kausen 94 FM à Dogondouchi sur la radio Dalol
92.8 FM
à Tera sur la radio Liptako 98.7 FM à Madawa sur la radio Saraounia 102.1 FM.
Studio Kalangu.
Place à présent à la partie magazine de ce journal, la gestion des risques et catastrophes en cas des inondations en lien avec le changement climatique était le thème de la troisième édition du Forum national des jeunes sur le changement climatique et le développement durable tenu la semaine dernière au centre Agrimet de Niamey. Ce forum a été organisé dans le cadre des préparatifs de la COP23 en Allemagne par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement avec la participation d'une centaine de jeunes venus des 8 régions du Niger. Les responsables du JVE, Sani Ayouba, nous fait le point au micro de Diallo Maria Makenda.
D'abord, il faut comprendre les enjeux liés à cette COP23. C'est d'abord d'avoir le manuel de procédure de la mise en œuvre de l'accord de Paris qui a été approuvé et mis en œuvre depuis l'année dernière. Parce que pour l'instant, il n'y a pas un manuel de procédure qui dit qui fait quoi et comment ça doit se faire. Donc c'était à cette COP, c'est déjà à cette COP, on espère qu'il y aura des avancées à ce niveau. Et nous voudrions aussi voir le contenu en termes de plan et comment on peut avoir des mécanismes, en tout cas qui peuvent nous permettre un accès facile ou un accès rapide aux nouvelles technologies, au financement, au transfert des technologies, comme on l'a dit, et également comment accompagner en tout cas nos agriculteurs, le domaine de l'agriculture, le soutien dans le domaine des technologies, également le soutien financier. Deuxième des choses, c'était de voir aussi la contribution déterminée au niveau national. Donc c'était pour nous de voir comment aider les pays à ce qu'ils puissent respecter les engagements qu'ils ont eux-mêmes pris. Est-ce qu'il y a des efforts qui ont été mis en œuvre ou bien est-ce qu'il y a des situations où nous, en tant qu'acteurs non étatiques, on peut aider à influencer pour qu'il y ait des partenaires qui peuvent accompagner de façon rapide nos États pour la mise en œuvre de ces engagements propres qu'ils ont eux-mêmes choisis.
Vous avez tiré un bilan de cette COP22 aujourd'hui, à la veille de la COP23. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Qu'est-ce que vous avez vu qui a été bien, qui n'a pas été bien?
Au niveau de la COP22, à la sortie, quand même, il y avait eu beaucoup d'initiatives qui ont été lancées. Les triple A, par exemple, sur l'agriculture, l'adaptation de l'agriculture africaine. Il y avait eu l'initiative sur les énergies renouvelables. Il y avait plein d'initiatives qui sont portées. Malheureusement, ça n'a pas été le cas à 100%. Okay? Mais bon, les gens disent que jusqu'à la fin de l'accord, il n'y a pas eu des décisions prises, des décisions fortes par rapport à l'agriculture africaine, en dehors de l'initiative AAA qui a été lancée. Donc nous pensons que la COP22 a été une COP où il y avait eu quelques engagements, mais qui ont été timides dans leur mise en œuvre. Mais je pense qu'à la COP, l'Afrique doit vraiment partir d'une seule voie, rester solidaire et dégager les priorités pour le continent.
Le Niger, par rapport à ces résolutions de la COP22, de toutes ces recommandations, est-ce que vous avez fait peut-être un état des lieux depuis lors?
Il y a eu même un comité d'experts francophones qui étaient venus pour faire une réunion sur les bilans. C'était surtout par rapport à la mise en œuvre ou aux indicateurs pour mettre en œuvre la contribution déterminée au niveau national. Je pense qu'au niveau même du PEDES, il y avait eu des réunions stratégiques qui ont permis à ceux qu'on puisse aligner les PEDES par rapport aux nouvelles orientations telles que ce qui est contenu dans l'accord de Paris. Moi, je pense que c'est des mesures qui sont en cours d'être internalisées dans tout ce qu'il y a comme politique et programme de développement. Pas mal de programmes et projets en lien avec la résilience climatique, avec les changements climatiques.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez à l'écoute du forum du studio Kalangu qui a pour thématique contrôle technique des véhicules. C'est tout de suite avec Mokhtar Hamadou.